Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir. Nous revoici donc ensemble dans nos habituelles lectures en liberté pour la suite du roman de Georges Perec, Les choses. Le lendemain, Sylvie fit connaissance avec quelques-uns de ses futurs collègues. Ils les aidèrent à trouver un appartement. C'étaient trois gigantesques pièces hautes de plafond, complètement nues. Un long couloir menait à une petite pièce carrée où cinq portes ouvraient sur les trois chambres, sur une salle de bain, sur une cuisine immense. Deux balcons donnaient sur un petit port de pêche, la darse A du chenal sud, qui offrait quelques ressemblances avec Saint-Tropez, et sur une lagune aux odeurs fétides. Ils firent leur premier pas dans la ville arabe, achetèrent un sommier métallique, un matelas de crin, deux fauteuils de rotin, quatre tabourets de corde, deux tables, une natte épaisse d'alpha jaune décorée de rares motifs rouges. Puis Sylvie commença la classe. Jour après jour, ils s'installèrent. Leurs mâles qui avaient voyagé en petite vitesse arrivèrent. Ils déballèrent les livres, les disques, l'électrophone, les bibelots. Avec de grandes feuilles de papier buvard rouge, gris, vert, ils fabriquèrent des abat-jours. Ils achetèrent de longues planches à peine équarries et des briques à 12 trous, et couvrirent deux moitiés de murs de rayonnage. Ils collèrent sur tous les murs des dizaines de reproductions et sur un panneau bien en vue des photographies de tous leurs amis. C'était une demeure triste et froide. Les murs trop hauts, recouverts d'une sorte de chaux ocre jaune qui s'en allait par grandes plaques, les sols uniformément dallés de grands carreaux sans couleur. L'espace inutile, tout était trop grand, trop nu pour qu'ils puissent l'habiter. Il aurait fallu qu'ils soient 5 ou 6 quelques bons amis en train de boire, de manger, de parler, mais ils étaient seuls, perdus. La salle de séjour avec le lit de camp recouvert d'un petit matelas et d'une couverture bariolée, avec la natte épaisse où étaient jetés quelques coussins, avec surtout les livres, la rangée des Pléiades, les séries de revues, les 4 Disney, les bibelots, les disques, le grand portulan, la fête du carrousel, tout ce qui, il n'y avait pas si longtemps, avait été le décor de leur autre vie, tout ce qui, dans cet univers de sable et de pierre, les ramenait vers la rue de Quatre Fages, vers l'arbre, si longtemps vert, vers les petits jardins. La salle de séjour dispensait encore une certaine chaleur. À plat ventre, sur la natte, une minuscule tasse de café à la turque à côté d'eux, ils écoutaient la sonate à Kreutzer, l'archiduc, la jeune fille et la mort. Et c'était comme si la musique, qui dans cette grande pièce peu meublée, presque une salle, acquérait une résonance étonnante, se mettait à l'habiter et la transformait soudain. C'était un invité. Un ami très cher, perdu de vue, retrouvé par hasard, qui partageait leur repas, qui leur parlait de Paris, qui, dans cette soirée fraîche de novembre, dans cette ville étrangère où rien ne leur appartenait, où ils ne se sentaient pas à l'aise, les ramenait en arrière, leur permettait de retrouver une sensation presque oubliée de complicité, de vie commune, comme si dans un étroit périmètre, la surface de la natte, les deux séries de rayonnage, l'électrophone, le cercle de lumière découpé par l'abat-jour cylindrique, parvenait à s'implanter et à survivre une zone protégée que ni le temps ni la distance ne pouvaient entamer. Mais tout autour, c'était l'exil, l'inconnu. Le long corridor où les pas résonnaient trop fort, la chambre immense et glaciale, hostile, avec pour seul meuble un lit large, trop dur, qui sentait la paille, avec sa lampe bancale posée sur une vieille caisse qui faisait office de table de nuit, sa malle d'osier remplie de linge, son tabouret chargé de vêtements en tas, la troisième pièce inutilisée, où il n'entrait jamais. Puis l'escalier de pierre, la grande entrée perpétuellement menacée par les sables, la rue, trois immeubles de deux étages, un hangar où séchaient des éponges, un terrain vague, la ville alentour. Ils vécurent sans doute à Sfax les 8 mois les plus curieux de toute leur existence. Sfax, dont le port et la ville européenne avaient été détruits pendant la guerre, se composait d'une trentaine de rues se coupant à angle droit. Les deux principales étaient l'avenue Bourguiba, qui allait de la gare au marché central, près duquel ils habitaient, et l'avenue Eddy Chaker, qui allait du port à la ville arabe. Leur intersection formait le centre de la ville. Là se trouvait l'hôtel de ville, dont deux salles au rez-de-chaussée contenaient quelques vieilles poteries et une demi-douzaine de mosaïques, la statue et le tombeau de Eddy Chaker assassiné par la main rouge, peu de temps avant l'indépendance. Le café de Tunis, fréquenté par les Arabes, et le café de la Régence, fréquenté par les Européens. Un petit parterre de fleurs, un kiosque à journaux, un débit de tabac. On faisait le tour de la ville européenne en un petit peu plus d'un quart d'heure. De l'immeuble qu'ils habitaient, le collège technique était à 3 minutes, le marché à 2, le restaurant où ils prenaient tous leurs repas à 5, le café de la Régence à 6, de même que la banque, que la bibliothèque municipale, que 6 des 7 cinémas de la ville. La poste et la gare et la station des voitures de louage pour Tunis ou Gabès étaient à moins de 10 minutes et constituaient les limites extrêmes de ce qu'il était suffisant de connaître pour vivre à Sfax. La ville arabe fortifiée, vieille et belle, offrait des murailles bises et des portes que, à juste titre, on disait admirables. Ils y pénétraient souvent et en faisaient le but presque exclusif de toutes leurs promenades. Mais parce qu'ils n'étaient justement que des promeneurs, ils y restèrent toujours étrangers. Ils n'en comprenaient pas les mécanismes les plus simples. Ils n'y voyaient qu'un dédale de rue. Ils admiraient, en levant la tête, un balcon de fer forgé, une poutre peinte, la pure ogive d'une fenêtre, un jeu subtil d'ombre et de lumière, un escalier d'une étroitesse extrême. Mais leur promenade n'avait pas de but. Ils tournaient en rond, craignaient à tout instant de se perdre, se lassaient vite. Rien finalement ne les attirait dans cette succession d'échoppes misérables, de magasins presque identiques, de souks confinés, dans cette incompréhensible alternance de rues grouillantes et de rues vides, dans cette foule qu'ils ne voyaient aller nulle part. Cette sensation d'étrangeté s'accentuait, devenait presque oppressante, lorsque, ayant devant eux de longs après-midi vides, des dimanches désespérants, ils traversaient la ville arabe de part en part et au-delà de Bab Djebli gagnaient les interminables faubourgs de Sfax. Sur des kilomètres, c'étaient des jardins minuscules, des haies de figuiers de barbarie, des maisons de torchis, des cabanes de tôle et de carton, puis d'immenses lagunes désertes et putrides, et tout au bout, à l'infini, les premiers champs d'oliviers. Ils traînaient des heures entières. Ils passaient devant des casernes, traversaient des terrains vagues, des zones bourbeuses. Et lorsqu'ils entraient de nouveau en ville européenne, lorsqu'il passait devant le cinéma Hilal ou devant le cinéma Nour, lorsqu'ils s'attablaient à la Régence, frappaient dans leurs mains, pour appeler le garçon, demandaient un Coca-Cola ou une canette de bière, achetaient le dernier Monde, sifflaient le marchand ambulant éternellement vêtu d'une longue blouse blanche et sale, coiffé d'un calot de toile, pour lui acheter quelques cornets de cacahuètes, d'amandes grillées, de pistaches et de pignons, alors ils éprouvaient le sentiment mélancolique d'être chez eux. Ils marchaient à côté des palmiers gris de poussière. Ils longeaient des façades néo-mauresques, des immeubles de l'avenue Bourguiba. Ils jetaient un vague coup d'œil sur les vitrines hideuses. Meubles frêles, lampadaires de fer forgé, couvertures chauffantes, cahiers d'écoliers, robes de ville, chaussures pour dames, bouteilles de gaz, butane. C'était leur seul monde, leur vrai monde. Ils rentraient en traînant les pieds. Jérôme faisait du café dans des azois importés de Tchécoslovaquie. Sylvie corrigeait un paquet de copies.
Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Help. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way.
En liberté, Denis Flageol.
Les choses, Georges Perec. Jérôme, d'abord, avait essayé de trouver du travail. Il s'était plusieurs fois rendu à Tunis, et grâce à quelques lettres d'introduction qu'il s'était fait donner en France et à l'appui de ses amis tunisiens, avait rencontré quelques fonctionnaires à l'information, à la radio, au tourisme, à l'éducation nationale. Ce fut peine perdue, les études de motivation n'existaient pas en Tunisie, ni les mi-temps. Et les rares sinécures étaient trop bien tenues. Il n'avait pas de qualification, il n'était ni ingénieur, ni comptable, ni dessinateur industriel, ni médecin. On lui offrit à nouveau d'être instituteur ou pion. Il n'y tenait pas. Il abandonna très vite tout espoir. Le salaire de Sylvie leur permettait de vivre petitement. C'était à Sfax le mode de vie le plus répandu. Sylvie s'épuisait à faire comprendre, conformément au programme, les beautés cachées de Malherbe et de Racine à des élèves plus grands qu'elle qui ne savaient pas écrire. Jérôme perdait son temps. il entreprit divers projets. Préparer un examen de sociologie, tenter de mettre en ordre ses idées sur le cinéma, qu'il ne sut mener à bien. Il traînait dans les rues, chaussé de ses Weston, arpentait le port, errait dans le marché. Il allait au musée, échangeait quelques mots avec le gardien de la salle, regardait quelques instants une vieille amphore, une inscription funéraire, une mosaïque. Daniel dans la fosse au lion, Amphitrite chevauchant un dauphin. Il allait regarder une partie de tennis sur les cours aménagés au pied des remparts. Il traversait la ville arabe, flânait dans les souks, soupesant les étoffes, les cuivres, les sels. Il achetait tous les journaux, faisait les mots croisés, empruntait des livres à la bibliothèque, écrivait à ses amis des lettres un peu tristes, qui restaient souvent sans réponse. L'emploi du temps de Sylvie rythmait leur vie. Leur semaine se composait de jours fastes. Le lundi, parce que la matinée était libre et parce que les programmes des cinémas changeaient. Le mercredi, parce que l'après-midi était libre. Le vendredi, parce que la journée entière était libre et parce que, à nouveau, changeaient les programmes. Et de journées fastes, les autres. Le dimanche était un jour neutre, agréable le matin. Il restait au lit, les hebdomadaires de Paris arrivaient. Long après-midi, sinistre le soir. À moins que par hasard un film ne les attirât, mais il était rare que deux films notables ou simplement visibles soient donnés dans la même demi-semaine. Ainsi passaient les semaines. Elles se succédaient avec une régularité mécanique. Quatre semaines faisaient un mois, ou à peu près. Les mois se ressemblaient tous. Les jours, après avoir été de plus en plus courts, devinrent de plus en plus longs. L'hiver était humide, presque froid. Leur vie s'écoulait. Leur solitude était totale. Sfax était une ville opaque. Il leur semblait, certains jours, que nul jamais ne saurait y pénétrer. Les portes ne s'ouvriraient jamais. Il y avait des gens dans les rues le soir, des foules compactes qui allaient et venaient, un flot presque continu sous les arcades de l'avenue Eddie Schaecker, devant l'hôtel Mabrouk, devant le cinéma Hillal, devant la pâtisserie Les Délices, des endroits publics presque bondés, cafés, restaurants, cinéma. Des visages qui par instant pouvaient sembler presque familiers. Mais tout autour, le long du port, le long des remparts, à peine s'éloignait-on, c'était le vide, la mort. L'immense esplanade ensablée devant la cathédrale hideuse, cernée de palmiers nains. Le boulevard de Piqueville, bordé de terrains vagues, de maisons de deux étages. La rue Mangolt, la rue Fezani, la rue Abdelkader Zgal, nues et désertes, noires et rectilignes, balayées de sable. Le vent secouait les palmiers rachitiques, troncs renflés d'écailles ligneuses d'où émergeaient à peine quelques palmes en éventail. Des multitudes de chats se glissaient dans les poubelles. Un chien au pelage jaune passait parfois, rasant les murs, la queue entre les jambes. Nulle âme qui vive. Derrière les portes toujours closes, rien d'autre que des corridors nus, des escaliers de pierre, des cours aveugles, des suites de rues se coupant à angle droit, des rideaux de fer, des palissades, un monde de fausses places, de fausses rues, d'avenues fantômes. Ils marchaient silencieux, désorientés, et ils avaient parfois l'impression que tout n'était qu'illusion, que Sfax n'existait, ne respirait pas. Ils cherchaient autour d'eux des signes de connivence, rien ne leur répondait. C'était une sensation presque douloureuse d'isolement. Ils étaient dépossédés de ce monde, ils n'y baignaient pas. Ils ne lui appartenaient pas et ne lui appartiendraient jamais. Comme si un ordre très ancien avait été établi une fois pour toutes, une règle stricte qui les excluait. On les laisserait aller où ils voulaient aller, on ne les inquiéterait pas, on ne leur adresserait pas la parole. Ils resteraient des inconnus, des étrangers. Les Italiens, les Maltais, les Grecs du port les regardaient passer en silence. Les grands oléiculteurs, tous de blanc vêtus, avec leurs lunettes à monture d'or, marchant à pas lents dans la rue du Bay, suivis de leurs chaouches, passeraient à côté d'eux sans les voir. Ils n'avaient avec les collègues de Sylvie que des rapports lointains et souvent distants. Les enseignants français titulaires semblaient ne pas priser tout à fait les contractuels. Même ceux que cette différence ne gênait pas pardonnèrent plus difficilement à Sylvie de n'être pas bâtie à leur image. Ils l'auraient voulu femme de professeur et professeur elle-même, bonne petite bourgeoise de province, de la dignité, de la tenue, de la culture. L'on représentait la France. Et bien qu'en quelque sorte il y eut encore deux Frances, celle des professeurs débutants désireux d'acquérir au plus vite une maisonnette à Angoulême, Béziers ou Tarbes, et celle des insoumis ou réfractaires, qui ne touchaient pas le tiers colonial mais pouvaient se permettre de mépriser les autres. Mais c'était une espèce en voie d'extinction, la plupart avaient été graciés, d'autres partaient s'installer en Algérie ou en Guinée. Aucune des deux ne semblait prête à admettre que l'on pût au cinéma s'asseoir au premier rang à côté de la marmaille indigène ou traîner comme un feignant en savate, parasé, débraillé dans les rues. Il y eut quelques échanges de livres, de disques, quelques rares discussions à la Régence, et ce fut tout. Nulle invitation chaleureuse, nulle amitié vivace. C'était une chose qui ne poussait pas à Sfax. Les gens se recroquevillaient sur eux-mêmes, dans leur maison trop grande pour eux. Avec les autres, avec les employés français de la compagnie Sfax Gasfa, ou des pétroles, avec les musulmans, avec les juifs, avec les pieds noirs, c'était encore pire. Les contacts étaient impossibles. Il pouvait leur arriver pendant une semaine entière de ne parler à personne. Il put sembler bientôt que toute vie s'arrêtait en eux. Du temps passait, immobile, plus rien ne les reliait au monde, sinon des journaux toujours trop vieux dont ils n'étaient même pas sûrs qu'ils ne fussent pas que de pieux mensonges. Les souvenirs d'une vie antérieure, les reflets d'un autre monde. Ils avaient toujours vécu à Sfax, et ils y vivraient toujours. Ils n'avaient plus de projet, plus d'impatience, ils n'attendaient rien. Pas même des vacances toujours trop lointaines, pas même un retour en France. Ils n'éprouvaient ni joie, ni tristesse, ni même ennui. Mais il pouvait leur arriver de se demander s'ils existaient encore. S'ils existaient vraiment. Ils ne retiraient de cette question décevante aucune satisfaction particulière. À cette nuance près, il leur semblait parfois confusément, obscurément, que cette vie était conforme, adéquate et paradoxalement nécessaire. Ils étaient au cœur du vide. Ils étaient installés dans un no man's land de rues rectilignes, de sable jaune, de lagunes, de palmiers gris, dans un monde qu'ils ne comprenaient pas, qu'ils ne cherchaient pas à comprendre, car jamais, dans leur vie passée, ils ne s'étaient préparés à devoir un jour s'adapter, se transformer, se modeler un paysage, un climat, un mode de vie, pas un instant. Sylvie ne ressembla au professeur qu'elle était censée être. Et Jérôme déambulant dans les rues, pouvait donner l'impression qu'il avait emmené sa patrie, ou plutôt son quartier, son ghetto, sa zone, à la semelle de ses souliers anglais. Mais la rue Larbizarouk, où ils avaient élu domicile, n'avait même pas la mosquée qui fait la gloire de la rue de Quatre Fages, et pour le reste, il n'y avait à Sfax, quelque effort qu'ils fissent parfois pour les imaginer, ni MacMahon, ni Harisbar, ni Balzar, ni Contrescarpe, ni Salpléiel, ni Berge de la Seine une nuit de juin. Mais dans ce vide, à cause de ce vide, justement à cause de cette absence de toute chose, cette vacuité fondamentale, cette zone neutre, cette table rase, il leur semblait qu'ils se purifiaient, qu'ils retrouvaient une simplicité plus grande, une véritable modestie. Voilà donc pour ce soir la suite de ce roman de Georges Perec, Les choses, que nous retrouverons demain. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.